Notre émission de ce soir est une émission consacrée à un hommage à Eric Hobsbawm. Hobsbawm, H-O-B-S-B-A-W-M. C'est pas évident à l'entendre. Eric Hobsbawm est un historien anglais né en 1917 et décédé tout récemment, le 1er octobre 2012. Il est né en Égypte en 1917, donc d'une mère autrichienne et d'un père anglais. Il reçut sa première formation intellectuelle à Vienne. Orphelin à 14 ans, il est élevé par sa tante à Berlin, où il assiste à la faillite du régime de Weimar, avant d'avoir 16 ans. Il rejoint alors les mouvements lycéens communistes et distribue des tracts contre Hitler. Ses tuteurs quittent Berlin et en mars 1933, il rejoint Londres. À Cambridge, il étudie l'histoire, s'enflamme pour le succès du Front populaire en France et adhère au PC anglais en 1936, auquel il restera fidèle jusqu'à sa dissolution en 1991. Devenu professeur d'histoire, sa carrière sera entravée par son appartenance politique. Chargé de cours en 1947, il ne sera titularisé qu'en 1970. De 1959 à 2009, il publiera de nombreux ouvrages et sera traduit dans une quarantaine de langues. Son ouvrage majeur, « L'âge des extrêmes, le court XXe siècle », paru en 1994, n'est paru en France qu'en 1999 seulement et sous une initiative militante. Historien engagé à la hauteur de vue impressionnante, il finit par obtenir une reconnaissance universelle. Radio Canu, à travers une coproduction entre les émissions Bistantlac et Agite Manon Tropo, lui a consacré une émission lors d'un entretien avec l'historien lyonnais Maurice Moissonnier le 8 décembre 1999. C'était alors la 26e émission réalisée avec Maurice Moissonnier qui nous a quittés le 23 juin 2009. C'est le contenu de cette émission que nous vous proposons d'entendre ce soir, dans le cadre de la 3e émission Vendémiaire.
Maurice Moissonnier, nous sommes heureux de vous recevoir une nouvelle fois pour Radio Canu. Et à l'occasion de cette fin de siècle, bien qu'il reste encore une année, si on compte bien
oui,
100 ans, et
absolument.
100 ans évolue, mais on n'aura pas ouais. trop d'un an pour faire ce vaste bilan. On peut peut-être évoquer les grands moments du siècle, et en particulier les grands moments des luttes sociales et puis de ce qu'il en est advenu au fil des années de ces luttes sociales passées.
Oui, oui, je crois effectivement que ça a été un siècle qui a été très profondément marqué par cela. D'ailleurs, c'est tout à fait clair. Hein. Un simple exemple, mais frappant, c'est quand même en 1901, qui a ce qu'on pourrait appeler la deuxième fondation de la CGT, qui a été à ce moment-là, la seule confédération ouvrière syndicale qui a existé, véritablement. Hein. C'est sa deuxième fondation parce que c'était la fondation justement de la CGT créée un peu plus tôt de la Fédération des Bourses du Travail. Mais finalement, ça a été la Confédération Générale du Travail, véritablement, à partir de ce moment-là. Or, c'était la première année de ce siècle. Et bien entendu, ce siècle a été parcouru, justement, des grands moments qui ont véritablement transformé en profondeur le monde et, bien entendu, notre pays.
Qu'est-ce qui aura pu marquer ce XXe siècle? C'est les guerres et les barbaries associées ou c'est la grande mutation technologique?
Ben, c'est les deux choses. C'est les deux choses. Parce que c'est vrai que ce siècle commence avec la montée de l'électricité, avec le rôle considérable du pétrole, hein, avec l'aviation, avec toute une série de choses. Puis c'est aussi le siècle de la bombe atomique. Et puis ça termine actuellement par le siècle de véhicules d'informatique et de la rapidité extraordinaire de la circulation de l'information, de la circulation de la pensée, qui influence directement d'ailleurs l'orientation des grandes puissances financières, hein, qui dominent le monde et qu'on a vu justement se constituer de plus en plus puissantes d'ailleurs, hein, aussi dans l'industrie et dans les différentes formes qu'a pris l'industrie à travers les 100 dernières années, qui prennent fin.
Nous sommes entrés dans l'ère vidéo chrétienne. Il n'y aura bientôt plus qu'une seule école. L'école cathodique. Dites-moi si la langue de Voltaire passera le cap du deuxième millénaire. Dites-moi si la langue de Shakespeare va étendre son empire. Oeil du loudou, comment ça va? Tout est clean.
Cher Marilyn,
je me sens très cool. Mon vieux Raoul, au nom du PES, au nom du fisc, et l'enfant Flores ou abdique. Au nom du PES, au nom du fisc, les langues font Flores ou abdique.
Nous sommes entrés dans l'air vidéo chrétien, et nous avons un temple commun, c'est l'école catholique.
Des 50 000 mots de la langue française, que restera-t-il en 2016? Et peut-être bien que la langue anglaise sera mangée par la japonaise.
Les gros poissons mangent les petits. Les inventions changent toute la vie. On cherche à produire un standard, uniformiser le grand bazar. On cherche à produire un standard, uniformiser le grand bazar.
Nous sommes entrés dans l'air vidéo chrétien, et nous avons un temple commun, c'est l'école catholique.
Selon les grands pronostiqueurs, le langage des ordinateurs va prendre les consommateurs par les yeux, les oreilles, le cœur.
Qu'à cela ne tienne, c'est le moment. Mettre en mémoire, séance tenant, nos vieux langages, musée vivant, parler depuis plus de 1000 ans. Nos vieux langages, musée vivant, parler depuis plus de 1000 ans.
Les branchés francophones, la machine est outil pour l'homme.
Si nous la prenons par les cornes, nos connaissances seront sans bornes. Nous ferons des bons en avant, en un espace réduit de temps. Citoyens du village global, nous déboucherons dans les étoiles. Citoyens du village global, nous déboucherons dans les étoiles.
Donc, fin du XXe siècle, on se donne un peu comme objectif, à travers d'autres interventions, tracer les points importants, les moments importants des luttes sociales.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans une proche émission, nous puissions évoquer justement quelque chose qui n'apparaît pas tellement aussi bien dans la presse actuelle de ces deux dernières années, qui de temps en temps font des retours pourtant sur l'histoire, et aussi bien d'ailleurs dans la télévision. Je veux parler de cette dramatique période 1938-39, qui est une période aiguë par toutes les polémiques qu'elle a entraînées, mais qui est aussi importante parce que c'est le naufrage de cette grande espérance qui a traversé siècles avec le Front populaire. Et ce que je voudrais montrer et dire, parce que à travers cette histoire, parce que moi ça m'a frappé quand ce que je veux faire, c'est voir à travers ce qui se passe sur le terrain chez nous à Lyon, voir comment cette période peut se comprendre, peut s'analyser et peut se décrire historiquement. Alors il est bien évident que dans cette analyse, je vais être amené à parler aussi des réalités lyonnaises sur le plan économique et sur le plan justement du monde patronal. Il est évident que cette question est une question quelquefois délicate. Ma collègue Annie Lacroix-Rise a eu quelques difficultés justement à publier des documents qui sont incontournables, mais que l'on s'efforce de tenir dans l'ombre. Alors moi je crois qu'il y a là un travail à faire, n'est-ce pas ? Il y a quand même un certain nombre de faits qui sont indiscutables, et je centrerai quand même aussi sur ces faits indiscutables, en particulier d'ailleurs sur la façon dont le patronat lyonnais a réagi en 1936, et sur la façon dont, lorsque a été passée la période de la grande terreur du patronat, c'est-à-dire ce qui se situe au mois de mai-juin, et je dirais presque jusqu'à la veille du 14 juillet 1936, la façon dont on a fait le dos rond, mais comment en même temps, presque tout de suite après, un véritable plan de campagne a été mis en place. Et moi je crois que c'est quelque chose d'indéniable. C'est quelque chose que je donnerai sans doute la prochaine fois. Je confesse au public là, je suis en train de faire un grand ouvrage, sans doute en plusieurs tomes, sur notre région, sur notre département. Ça s'intitulera sans doute, à moins que les éditeurs trouvent... Enfin bon, ça s'intitulera donc « Le mouvement ouvrier rhodanien dans la tourmente, 1930-1945 ». Et je pense que c'est quelque chose qui intéressera aussi. Et alors, je suis en train de travailler sur cette période des années 30. Et je crois que, figurez-vous que quand on voit comment le Front populaire est attaqué, je crois que on peut faire des rapprochements, non pas mécaniques, des rapprochements de fond, sur ce qu'est cet affrontement quand il y a des tentatives d'avancée sociale et que le monde du profit se trouve mis en cause et s'y oppose. Et je pense que ce serait intéressant de revenir justement sur la période 1936-1939, qui est une période à la fois dramatique.
J'ai l'impression que c'est une période un peu refoulée parce qu'elle gêne beaucoup de monde. La guerre, bon, on l'honore de la résistance et on la colorie de la résistance. Le Front populaire aussi, mais entre les deux, avec l'Espagne, on n'était pas très
absolument,
à l'aise avec tout
absolument,
ce qui s'est passé.
Absolument, absolument.
Le Front populaire, la bourgeoisie était en train de le casser. La guerre se préparait et on sait comme elle s'est mal préparée. Donc c'est une période à laquelle
il y avait des débats importants. Et alors, ça ne peut pas se lire seulement au niveau international, entre l'international communiste, l'international socialiste, l'international syndical ouvrière et l'international syndical rouge, et puis ensuite, au niveau national, les directions nationales. Ça se lit aussi sur le terrain. Et c'est ça qui me semble intéressant. C'est montrer comment au quotidien, dans la vie, et je sortirai rarement, bon, je ferai peut-être dans ce débat des références évidemment à la situation générale, mais je voudrais montrer comment dans un département des hommes de bonne volonté s'interrogent, ils tâtonnent, ils sont tous en train de tâtonner, mais il y a une réalité, il y a la réalité de ceux qui ont le pouvoir et l'avoir, et puis ceux qui travaillent et souhaitent changer la société. Et c'est vrai que les uns et les autres ont des problèmes entre eux, mais ces regroupements pour un affrontement, car l'histoire, c'est une histoire permanente d'affrontement entre ceux qui freinent et ceux qui accélèrent, qui essaient d'accélérer un mouvement d'émancipation des hommes. Et moi, je crois qu'il y a là à discuter beaucoup, et peut-être à retrouver certains signes qui nous viennent de ce temps-là dans nos débats actuels. Et c'est pourquoi je trouve que ce serait intéressant que Radio Camus s'y consacre. Et il y a un grand historien anglais, Eric Hobsbawm, qui a publié justement... en 1994, dans la perspective de cette vue globale sur le siècle, le troisième tome d'un ouvrage portant justement sur ce siècle. ce 20e siècle, ce qu'il appelle le court 20e siècle, c'est-à-dire 1914-1991, c'est le moment où il finissait ce livre, le court 20e siècle qui a véritablement modelé un monde qui est effectivement en train de disparaître, mais en laissant des traces extrêmement profondes. Et ce qui est quand même inquiétant, c'est que dans la publication, dans l'édition de cette époque-là, de notre époque que nous vivons actuellement, eh bien, il y a quand même l'effacement de cela. Et Hobsbawm a été obligé de constater qu'en France, eh bien, il n'y a pas eu de publication de ce dernier livre qui s'appelle « L'âge des extrêmes, histoire du court XXe siècle » et qui est justement quelque chose d'essentiel pour comprendre à la fois ce qui se passe maintenant et d'où vient ce qui se passe maintenant. Sans en masquer les faiblesses, mais aussi sans en marquer la grandeur. Et ça, moi, je crois que c'est important que Radio Canu en parle, parce que c'est en plein dans ses préoccupations. À la fois très attentif à ce qui est en train de changer, mais aussi très soucieux de mettre ce changement dans une perspective qui est une perspective historique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai une faiblesse tout particulière pour Radio Canu.
Bon, merci. Pour le situer, ce bouquin, il faut dire que Histoire du court XXe siècle, ça surprend. Il vient après une série de trois livres que l'auteur avait écrit sur le long XIXe siècle.
Oui, c'est ça. Et justement, c'est très intéressant parce qu'il montre aussi les mécanismes de ce qu'on pourrait appeler l'accélération de l'histoire. Et l'accélération de l'histoire, à la base, il y a effectivement les progrès scientifiques et techniques, mais il y a aussi les transformations rapides des sociétés en rapport avec le problème du travail, le problème de la production et le travail des prises de conscience, véritablement, des réalités du temps que l'on vit et du temps qui se déroule.
Et si on s'intéresse à la spécificité de ce livre, qu'est-ce qui peut expliquer que il est presque l'objet d'une censure consensuelle?
Eh bien, voilà, parce qu'il montre effectivement, il donne à comprendre ce qui a animé le mouvement populaire. Il donne à comprendre aussi ce qui a animé de grands courants progressistes, même si ils étaient fondés à certains moments sur des visions faussées. Je pense en particulier, il montre, n'est-ce pas, comment la révolution d'octobre a été quelque chose d'important comme dans l'impact, comment des représentations multiples, des transformations possibles se sont installées, comment elles ont généré aussi des actions qui, sur le plan social, sur le plan politique, ont marqué très profondément l'histoire du monde et aussi l'histoire de notre pays, bien entendu.
On the leaves.
Ce qui est intéressant, c'est que dans la préface française de cet ouvrage, Eric Osborne explique les difficultés qu'il a eues à faire publier ce livre en France, alors qu'il est publié d'une façon absolument extraordinaire sur le plan mondial. Il a écrit, par exemple, que c'était même dans toutes les langues des pays balkaniques qu'il a été publié. Il a été publié en allemand, il a été publié bien entendu en anglais, ben c'est normal. Il a été publié en italien, il a été publié en chinois, il a été publié en japonais, il a été publié dans à peu près tous les pays d'Europe, il donne la liste, mais pas en France. Et que lui disait-on? On lui disait, mais c'est pas dans l'air du temps. Vous allez nous parler du socialisme, du communisme, vous allez nous parler de la guerre mondiale, la deuxième grande guerre mondiale, vous allez nous parler de tous ces problèmes-là, mais maintenant c'est pas dans l'air du temps, donc ça se vendra mal. Alors, parler dans l'air du temps, ça peut avoir deux significations, une signification idéologique. Faisons la croix sur tout cela, mais par la même occasion, on s'interdit de penser d'où on vient, ce qui est assez difficile de comprendre d'où on va. Ou bien alors, et aussi, alors l'aspect purement mercantile, ça va pas se vendre. Je regrette beaucoup, les choses se vendent lorsqu'on en parle. Les choses se vendent lorsqu'elles attirent l'attention, quand on vend des livres, sur des préoccupations qui sont toujours vivantes. Et ces préoccupations, quoi qu'on en dise, elles sont justement encore vivantes.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas en France une influence forte, un courant dominant, comme on dit, d'historiens, qui, on peut penser à des gens comme Furet et autres, qui semblent un peu dominer l'édition historique
absolument.
Française
et... Mais absolument, mais c'est directement de ça, à ça que fait allusion Osborne. Il le cite justement, et il dit que c'est beaucoup plus, si vous voulez, un aspect politique, que scientifique. Parce que c'est ça. Bon, alors, l'histoire d'une illusion. Bon, le livre de Furet. Est-ce une illusion ou est-ce un épisode avec tous ses aspects lumineux et plein d'ombre aussi, mais qui fait partie d'une évolution? Qu'on me cite un grand moment de l'histoire française où il n'y a pas eu la coexistence des deux choses. La Révolution française, derrière ceci, la Révolution de 48 aussi, la Commune. Il n'y a pas de lumière divine tombant sur l'histoire à un certain moment. Il y a toujours cette complexité et toujours cette contradiction, pour la bonne raison que l'histoire fonctionne le plus souvent sur la contradiction.
Et en quoi aujourd'hui ce livre serait gênant pour ceux qui pendant 5 ans n'ont pas souhaité le voir apparaître en France?
Eh bien, pour tous ceux qui se sont à un certain moment, qui ont proclamé la fin de l'histoire. Je crois que c'est ça aussi, derrière l'histoire d'une illusion, c'est la fin d'une histoire. Et vous savez que ce fameux chercheur japonais qui avait annoncé, n'est-ce pas, que la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'histoire. C'est quelque chose de tout à fait risible. Mais ça a pris quand même jusqu'à un certain point. Et alors, il y a eu cette espèce de démarche qui vise, n'est-ce pas, à effacer ces moments forts sous prétexte qu'il y avait dans le courant puissant qui a modelé l'histoire de notre nation toute une série de déchets et de déchets dangereux qui étaient véhiculés. Mais c'est la réalité de l'histoire, hein, point, c'est tout. Hein.
Cet aspect-là, et si on le situe par rapport à un livre qui a eu un certain succès médiatique au moins, le livre noir du communisme, il est dans une perspective radicalement différente. C'est pas le livre noir du capitalisme non plus.
Bien entendu. Alors, bon, disons clairement là-dessus. Il y a parmi ces auteurs des gens qui font une analyse qui est une analyse historique réelle, intéressante. Mais il y a aussi dans la conception de ce livre quelque chose qui contient les éléments très noirs de ce qu'on appellerait jusqu'à un certain point une légende noire. Bon, j'ai donné un livre qui est sorti avec moins de bruit parce que justement il n'avait pas les éléments nécessaires sur le plan de la publicité. De la petite maison Le Temps des Cerises, un livre noir du capitalisme. Ce livre noir du capitalisme, moi j'ai fait quelque chose qui s'intitule, n'est-ce pas, Les Canuts, parce que bon, on m'a demandé de parler des Canuts, face aux cannibales du profit. Et j'ai mis simplement en lumière les manœuvres extraordinaires contre les Canuts après la révolte des Canuts. C'est un aspect aussi des livres noirs du capitalisme. On peut faire une histoire lumineuse du capitalisme en montrant comment, effectivement, s'emparant des connaissances scientifiques et tout ça, bon, les industriels, les hommes maniant les capitaux ont contribué, effectivement, à certains progrès matériels indiscutables. Mais il y a aussi d'autres aspects, et c'est la même chose au plan des luttes sociales, et c'est la même chose au plan des luttes politiques.
Sous la botte des garnisons, ne croyez pas que la rivière dorme. Le Rhône gronde au confluent. Encore un peu de temps, vous pouvez nous réduire. Sous les dortoirs de la prison, vous pouvez enchaîner nos ombres. Jamais notre clarté. N'espérez pas que Lyon se taise. Ceux de Saint-Just et ceux de Caluire attendent. Ceux de La Guille vous entendent. Ceux de Saint-Georges et ceux de Vaise. Encore un peu de temps, vous pouvez nous détruire. Devant vos lois et vos canons, nous laisserons notre poussière et notre cendre. Notre flamme, jamais. Ne comptez pas que Lyon consente. Quand vient le soir, la ville entière sous la lampe dédaille et répète le serment. Celui qu'on dit pour la vengeance, celui qu'on dit pour le retour des innocents. De père en fils, de siècle en âge, c'est nous qui sommes les Canuts. Avant nous, d'autres sont venus. D'autres viendront finir l'ouvrage.
Thank you.
Parlera-t-on davantage de l'âge des extrêmes? On va bien sûr inviter nos auditeurs à le découvrir. Je crois que maintenant, il doit être disponible dans le commerce.
Oui, maintenant, il est disponible dans le commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est publié aux éditions complexes, qui sont des éditions belges. Tout ça, d'ailleurs, pour rectifier, vous savez, parfois, la supériorité que certains mettent racontant des histoires belges en disant quand même... Bon, ben, je pense que là, il y a une très belle histoire belge. Ils ont accepté cette publication et les éditions complexes, qui sont des éditions très sérieuses, qui ont déjà beaucoup écrit sur l'histoire, justement, rendent un service. Alors, c'est publié sous la direction, enfin, avec la référence édition complexe, Le Monde diplomatique, qui a justement aidé au premier lancement de cet âge des extrêmes, par un bulletin qu'on pouvait découper dans Le Monde diplomatique pour les commander. Donc il y a eu une forte commande grâce au Monde diplomatique de départ, et je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire devront lire avec beaucoup d'attention ce livre, parce que c'est un véritable livre d'histoire qui affronte toutes les questions et qui effectivement jette à bas un certain nombre de vérités premières, entre guillemets, qui sont nullement fondées.
On peut penser qu'il engendrera un débat en France
Oui, je pense, oui, bien sûr. Il y a déjà eu des clubs du monde diplomatique qui ont organisé un débat autour de ce livre, mais il faut laisser le temps de lire, parce que c'est quand même un film qui est un livre qui a 749 pages de texte, de la part, je répète, d'un historien, moi, qui m'a fasciné. J'ai eu l'occasion de l'avoir rencontré à Linz au cours d'un colloque sur la social-démocratie en Europe, et cet homme était d'une... Il y avait une connaissance très, très, très profonde, pas seulement limitée à l'Angleterre, mais il a porté évidemment sur l'Angleterre des choses extrêmement importantes. Et il se trouve que c'était en 1973, et nous l'avons vu arriver un matin, le visage crispé, un peu blême, nous annonçant le coup de force contre Allende au Chili, et proposant immédiatement une réaction de tous ces historiens, parce que, disait-il, nous sommes responsables de la lucidité dans une période en mouvement, même lorsque ça arrive aujourd'hui. Nous devons effectivement nous exprimer sur ceci. Voilà.
Donc une connaissance de longue date pour vous.
Absolument, absolument. Absolument. Une connaissance un peu rapide, parce que bon, nous avions ensuite discuté, et puis ensuite on ne s'est pas revus. Mais j'ai toujours, après je me suis plongé dans ces livres, qui sont très intéressants, parce que c'est une connaissance de la société, ce qu'il a écrit en particulier aussi sur le monde de petits peuples anglais, par exemple. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, d'une analyse fine et vivante.
Connaissez l'Angleterre, vous n'avez pas connu Cozy Corner. Cozy Corner, un soir derrière une palissade, un soir d'été, je t'ai aimé. Au milieu des tessons de bouteilles, tes cheveux roux brillaient comme le soleil, un gros pasteur qui titubait. Tout doucement, dans le brouillard, avec un grand geste insensé, nous a mariés sans le savoir. Mangez vos sandwichs, hommes riches, buvez votre bière. Mangez vos sandwichs, hommes riches, et payez vos verres. Ouvrez la porte et sortez, celle que j'aimais morte. J'en ai assez. Elle s'est jetée dans la rivière, la plus belle fille de l'Angleterre. Elle s'est jetée dans l'eau glacée. disparaissez. On vous qui connaissez l'Angleterre, avez-vous jamais connu la misère? Cosy Corner, tu t'es jeté dans la Tamise un soir d'hiver à 17 ans. Tu n'avais pas même une chemise. Toutes les nuits, tu dormais sur les bancs et tu ne mangeais pas souvent. Un beau jour, tu en as eu marre, Cosy Corner, je te comprends. C'était un trop beau jour, vraiment. Mangez vos sandwichs, hommes riches, buvez votre bière. Mangez vos sandwichs, hommes riches, et payez vos verres. Ouvrez la porte et sortez, celle que j'aimais morte. J'en ai assez. Elle s'est jetée dans la rivière, la plus belle fille de l'Angleterre. Elle s'est jetée dans l'eau glacée. Disparaissez. La tempête souffle sur l'Angleterre. Le roi, la reine et tous les dignitaires sont décoiffés. La couronne est tombée par terre. Elle a roulé, roulé, roulé. Et sur les côtes, la mer est démontée. Elle écume, elle est en colère. Elle engueule le roi d'Angleterre à cause de la mort d'une enfant, Cosy noyée à 17 ans. Mangez vos sandwichs, hommes riches, buvez votre bière. Mangez vos sandwichs, hommes riches, et payez vos verres. Ouvrez la porte et sortez, celle que j'aimais morte. J'en ai assez. Elle s'est jetée dans la rivière, la plus belle fille de l'Angleterre. Elle s'est jetée dans l'eau glacée. Disparaissez.
Vous parliez d'archives récemment ouvertes, c'est lesquelles qui s'ouvrent donc?
Ah ben, parmi les archives récemment ouvertes, voilà, voilà, sur le plan, sur le, cette période-là, jusqu'à une période relativement récente, on ne pouvait accéder à ces archives que à celles qui sont publiées jusqu'en 1939-40, quoi. Bon, jusqu'en 40. Pratiquement, jusqu'à la débâcle, jusqu'à 40. À partir du moment où s'installe Vichy, alors il y avait eu l'interdiction. Alors depuis, effectivement, les choses ont progressé. Enfin, les choses se sont ouvertes. Bon, elles sont consultables avec, disons, des autorisations. Bon, dans la mesure où on est historien, quand même, on l'obtient. Dans la mesure où, en tant que, par exemple, rédacteur dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, ayant fourni 3500 biographies qui vont de 5 lignes à plusieurs pages dans les 34 volumes qui ont été publiés, il est évident que j'ai les droits de regarder ça. Alors il y a un certain nombre de règles encore qu'il faut, mais enfin on peut parfois un peu ainsi voir les archives de police, voir les archives judiciaires, voir les débats qui ont lieu justement au niveau du super-préfet et de tous les préfets qui règnent sur eux, voir aussi la façon dont sont traitées les choses. Je vous assure qu'il y a des documents que l'on lit et les larmes vous montent aux yeux. Il y a des documents qu'on lit où la rage vous prend au cœur. Parce qu'on ne peut pas être, évidemment, sur des documents qui tellement riche de chair, de sang, de grandeur et parfois de vilenie, sans éprouver des réactions. que l'historien s'efforce de maîtriser, mais il faut à certains moments que les choses s'étalent sur la table.
L'ouverture, elle n'est pas annuelle, c'est pas année par année, 60 ans
non,
après.
Non, quoi. Non, elle dépend aussi, surtout sur le plan des archives départementales, du rythme de classement. Moi, je suis très reconnaissant actuellement aux archives départementales du Rhône, la section moderne et contemporaine, parce qu'ils font, il y a des conservateurs successifs qui ont fait de très gros efforts dans les dernières années pour que véritablement les choses avancent vite. Et ça, c'est important, mais vous avez des inégalités considérables, hein, encore en France, selon les dépôts. Et selon,
encore beaucoup à faire.
Voilà.
Là, vous avez réuni un ensemble d'archives et de documents.
Ah ben, écoutez, essentiellement lyonnais. Alors, il y a beaucoup de choses inédites parce qu'il y a des documents d'archives et documents d'archives récemment ouvertes. Et je crois que c'est très intéressant de voir celle-ci, mais pas seulement. Il y a aussi ce qui se disait, ce qui s'écrivait brutalement à certains moments dans les journaux. Je pense en particulier à un journal, c'est le Nouvelliste, je l'appelle. Et ça n'est pas une forme polémique. Je l'appelle, c'est le journal de la Presqu'île et le journal aussi de l'Archevêché. Je dis tout de suite que je justifierai cette appellation. Lorsque Pie XII est élu pape, eh bien, il y a un message envoyé de ce journal qui se réjouit parce que cette date d'élection correspond à la date de création du journal, et qui se range littéralement à ces choses-là, et qui va avoir, mais à certains moments, des positions invraisemblables. Il a été interdit à la Libération, mais ce n'est pas le signe d'une violence aveugle de la Libération, c'est le signe d'une justice immanente, je pourrais dire, parce que ces flots de haine, on aura l'occasion de faire des citations très précises.
Bien, Maurice Moissonnier, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour une future émission la plus proche possible où on entrera dans le détail de ce siècle passé.
Alors, en fonction de mon état de recherche et d'écriture, et bon, à certains moments, l'état de santé, je pense qu'on pourra pas avoir peut-être une suite tout à fait régulière, mais on va s'efforcer d'être le plus, je dirais pas le plus hebdomadaire, le plus bi-hebdomadaire possible, si vous voulez.
Dans une classe, au fond d'un poêle et d'un radiateur électrique, de merveilleux gamins dévalent une montagne de logique. Dans leur école, ils jouent au cancre, ce sont de brillants comédiens, frais maquillés de taches d'encre, et le metteur en scène vient. Triste théâtre aux quatre murs, où juste un rêve peut survivre, mais ça suffit pour que murmure l'imagination de nos gamins libres, l'imagination de nos gamins libres. La scène de l'acte premier, la leçon de banalité. Si tu ne veux pas un long nez, il te faut dire la vérité. Et nos gamins de s'enivrer, de penser fort bien raisonner. Pourquoi le canard enchaîné croque-t-il des têtes à gros nez? Et quand implose une télé, c'est qu'un politicien a dit, sans faire gaffe à son vilain nez, trois ou quatre chapelets de menterie, trois ou quatre chapelets de menterie. La suite de l'acte premier. Scène de maths acrobatique. Si les derniers sont les premiers, je suis prince en arithmétique. Mais les machines à calculer, de nos cancrons additionnés, multipliés, puis retranchés, rebâtis, le monde entier suivant une justice des salaires, il compte qu'un litre de lait à 3 francs pour un milliardaire, pour un smicard de centimes vaudrait, pour un smicard de centimes vaudrait. Scène première, acte dernier, une maigre leçon d'histoire sur les canuts si bien chantés, moins dans les salons que l'espoir. Ouvre vos livres, les cahiers, que ce qu'un métier a tissé. Déjà nos gones se sont taillés dans le bouquin de moissonnier. 70 heures par semaine, la Croix-Rousse tombe en paupière, le piston claque à la migraine, brouillant les cris des révolutionnaires, brouillant les cris des révolutionnaires. Déjà le rideau est tombé, et s'envolent les écoliers sur des planches à roulettes usées. On oublie crayons et cahiers. Seuls au théâtre sont restés des femmes aspirant le plancher. Au fond de la scène, allumés, attendent deux enfants collés. Je rencontrai 20 ans plus tard ces cancres d'école primaire. Marie donnait des cours du soir et Yann était psychologue scolaire. Marie donnait des cours du soir et Yann était psychologue scolaire.
Ainsi se termine cette émission consacrée à un hommage à Eric Kotzbaum et en même temps à Maurice Moissonnier. Donc je rappelle qu'elle est constituée de la rediffusion d'une émission proposée le 8 décembre 1999 avec Maurice Moissonnier en hommage à Eric Kotzbaum qui venait à l'époque, dont le livre L'âge des extrêmes, le court 20e siècle venait de paraître en France cette année-là. Maurice Moissonnier, c'était la 26e émission que nous avions réalisée avec lui dans ses studios. Il nous a quittés le 23 juin 2009. Alors, vous avez entendu, non pas successivement, mais on va remonter le temps. Tout d'abord, la Cancrologie, une chanson, paroles, musique et interprétation d'Alain Hivert, qui est en même temps un hommage à Maurice Moissonnier, vous l'avez noté. Vous l'aurez noté. Auparavant, c'est Béatrice Arnac qui interprétait Cozy Corner, un texte de Jacques Prévert sur une musique de Jean Wiener. Cette chanson, quand elle a été écrite, paroles et musique, a été censurée. Elle a été longtemps interdite. Elle avait été écrite par Prévert pour un film et elle a été interdite. L'enregistrement que vous avez entendu là a été fait une vingtaine d'années plus tard par Béatrice Arnac. Auparavant encore, un extrait des Canuts, l'opéra de Joseph Cosma sur un livret de Jacques Gaucheron, interprété là par l'opéra de Lyon. Et puis auparavant encore, vous avez entendu Strange Fruit, c'est une chanson interprétée par Billie Holiday, une composition de L. Allan. Strange Fruit, l'étrange fruit, c'est le... C'est une chanson qui évoque les pendus dans l'Amérique du Nord, dans son sud, les nègres qui étaient pendus aux arbres par les racistes. Je l'ai choisi aussi parce que dans cet enregistrement, Billie Holiday est accompagnée par L. Allan. La chanson de L. Allan. Billy est accompagné par Francis Newton à la trompette, avec d'autres musiciens saxophonistes. Et il se trouve que Francis Newton est un musicien que Eric Hobsbawm admirait beaucoup. Et il avait pris même ce pseudonyme Newton à un moment donné de sa carrière pour publier ses livres. On signalera en passant que Newton était un musicien communiste de jazz et qu'il y en avait finalement assez peu. Auparavant encore, vous avez entendu le grand classique l'hymne de la faille de la guerre d'Espagne, Heroes del Pueblo. Et puis, tout au début de cette émission, c'est Julius Bocarn qui interprétait sa composition Paroles et musique, l'ère vidéo chrétienne. Une citation d'Eric Hobsbawm relevée dans l'UMA du 20 mai 2009. Au niveau mondial, il y a des populations, mais pas de peuple. Et voilà, c'est là l'énorme problème. Bonsoir.